Mes frères, mes sœurs, les remerciements, les louanges, les éloges appartiennent en exclusivité au vivant qui ne meurt pas, de qui ne procède que le meilleur. À lui tout revient, sans lui rien n'existe. Sa sagesse est parfaite, son existence est avérée. Il est lui-même parfait dans ses noms et attributs, dans ses actes qui tous oscillent au travers de sa miséricorde, de sa pitié vis-à-vis de tout ce qu'il a créé. C'est le seul créateur. En réalité, et au travers de sa justice, qui a voulu, subhanahu wa ta'ala, de purifier l'exemple de tout défaut. Sa sagesse a dicté qu'il éprouve les uns et les autres, au travers de ce qu'ils aiment et de ce qu'ils n'aiment pas. Sa bienveillance, sa miséricorde ont dicté l'envoi aux univers du meilleur d'entre eux, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Par lui, Allah a montré le chemin, le droit chemin, en dehors duquel il n'y a que des sentiers perdus. Par lui, Allah a ouvert les yeux aux aveugles, le cœur plutôt des aveugles. Par lui, Allah a noué ce qui était coupé. Allah a séparé le vrai du faux. Et Allah a élevé, après avoir purifié le cœur de ceux qu'il a choisis dans ce bas monde, pour les récompenser ensuite dans l'au-delà par son agrément et la vision de sa noble face, subhanahu wa ta'ala. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant, celui en dehors de qui il n'y a point d'être digne d'adoration. Nous le louons et nous nous associons au concert des gens qui savent louer. Et en réalité, nous passons à côté de beaucoup de louanges. Il n'y a pas un bruit, j'entends de ventilo, il n'y a pas un silence, il n'y a pas un mouvement qui se passe sans sa volonté, subhanahu wa ta'ala. Si seulement on pouvait le connaître, c'est nécessairement l'aimer. Allah, subhanahu wa ta'ala, a éprouvé ses serviteurs. Mais aucun d'entre eux, aucun d'entre nous, particulier ceux qui ont été créés pour son adoration par choix, les djinns et les hommes, personne n'aura, grâce à lui, au travers de sa miséricorde et de sa justice, d'argument au jour du jugement dernier qu'il a créé pour trancher les différends. Il a envoyé le meilleur des hommes, Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce noble prophète, pour montrer le chemin et écarter toute ambiguïté et prescrire le bien, interdire le non convenable. Il a ordonné, louange à lui, son amour. Et quiconque n'aime pas ce prophète, sallallahu alayhi wa sallam, certainement n'est pas aimé d'Allah et fait partie de la pire des catégories. Il a ordonné son obéissance, parce que celui qui obéit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, obéit en réalité à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il a imposé de suivre sa voie. Celui qui suit une autre voie que celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah n'accepte pas son œuvre, quelles que soient ses prétentions et quel que soit le nombre de ses œuvres. Pour qu'Allah accepte une œuvre, vous le savez, il y a trois conditions, disent les savants, l'islam, la sincérité de l'œuvre et le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nombreux sont, et nous avons pourtant été avertis, et j'atteste qu'il est le prophète d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Après lui, il y aura certainement beaucoup de divergences. Et Allah nous a laissé sur une voie claire, éclairé de jour comme de nuit, et ne s'en écarte que le vrai perdant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a montré tout bien, au point que, disant un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas un oiseau qui se place sur un arbre sans que ceci nous ait été déjà prédit. C'était l'émerveillement, y compris dans nos plus intimes de nos actes, il nous a enseigné ce que Allah aime, subhanahu wa ta'ala. Alors qu'il se passe de tout. Il est né, qu'Allah le bénisse, un lundi, sans aucune discussion. Les savants sont unanimes dessus, les historiens aussi, dans une année également mémorable, l'année de l'éléphant, Am al-Fil, que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous signaler dans le Coran, dans la sourate qui porte ce même nom, l'éléphant. Par contre, le jour de sa naissance, le mois plutôt de sa naissance, a fait l'objet de divergences, parce qu'Allah a voulu que ce ne soit pas vraiment important. Ne soyons pas comme ces sots qui, disait un sage, Quand tu leur montres avec l'index la lune, ils voient l'index et ils ne voient pas la lune. Le professeur nous a mis en garde, n'exagérez pas sur moi. Comme d'autres l'ont fait avant, avec le fils de Marie, alayhi salam. Je ne suis que un esclave, un serviteur d'Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Son amour est une obligation. Les savants, ils ont divergé. Certains disent que c'est le mois de Safar, pour ceux qui connaissent les mois, le précédent. D'autres ont dit non, c'est Ramadan. Et d'autres enfin, ils sont plus nombreux, ont dit que c'est le mois de Rabi al-Awwal dans lequel nous sommes. Ensuite, ils ont divergé quel jour il est né, sallallahu alayhi wa sallam, comme si c'était vraiment important. Si c'était important, Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien laissé d'important sans nous indiquer la vérité dessus. Certains ont dit que c'est le 8, Rabi al-Awwal. Et c'est l'avis le plus juste des historiens. Et la majorité, par contre, des musulmans pensent que c'est le 12. Mais peu importe. Ce qui est certain, c'est qu'il est mort, sallallahu alayhi wa sallam, un lundi également. Et il est mort dans ce mois. Et on pense très probablement le 12 de ce mois. La raison voudrait que ce jour soit dans le cœur de tout musulman. Un jour où on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir laissé certainement la meilleure des choses, son livre, après d'avoir rappelé son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce jour fait l'objet de divergences. Allah ne fait que le meilleur pour éprouver qui il veut. Mais ce qui est également établi sans aucune discussion dessus, c'est que lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, n'a jamais fêté cet anniversaire, ni même appelé à le faire. Et les gens qui l'ont aimé le plus, c'était ceux de la meilleure, les trois meilleures générations, cités dans le hadith que vous connaissez. C'est ceux qui connaissaient le plus Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui connaissaient plus comment ils devaient être adorés au travers de ce que Allah les a fait vivre et comprendre de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun d'entre eux, unanimement, historiquement, n'a fêté ce qu'on appelle aujourd'hui la naissance, la fête de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aucun des fondateurs, entre guillemets, Allah a voulu choisir, il a choisi et il ne fait que le meilleur, a choisi des gens que vous connaissez, Abu Hanifa, l'imam Malik, Al-Shafi'i, l'imam Ahmad et bien d'autres, comme les leaders de cette communauté. Et aucun d'entre eux n'a suggéré ça, de fêter ce que le professeur n'a jamais fait, ce qu'Abu Bakr n'a jamais fait, ce qu'Omar n'a jamais ordonné. Et on se rappelle, vous vous rappelez, quand Allah a voulu qu'Abu Moussa al-Ashari, radiallahu anhu, invite le chef des croyants, Omar ibn Khattab, à fixer le début de l'islam, l'ère de l'islam, et qu'il a consulté ses compagnons, il a choisi Al-Farouq, radiallahu anhu, il a choisi le début de l'émigration, d'abandon de soi et de ses biens, vers la fuite vers Allah subhanahu wa ta'ala au travers de le voyage vers Médine, plutôt que de choisir même le début de la révélation. Et Allah sait où mettre son message, Allah sait où mettre son inspiration. Si Allah avait voulu nous éprouver par ça, certainement il nous aurait donné une de ces dates qui fait l'objet aujourd'hui de fêtes dans beaucoup de familles, malheureusement. Historiquement, il a été prouvé que cette innovation vient d'où? Est née en 691 de l'Égypte, correspondant en 1292 du calendrier grégorien. 7 siècles après l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam, inventée par ceux qui se font appeler les Fatimides, un groupe de chiites qui a occupé l'Égypte et qui se réclame de l'islam et se réclame de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci est historique. Je ne vous dis pas d'aller sur Google ou Wikipédia, ceci a été prouvé. Et comme une innovation donne naissance à son père, contrairement à autre chose, comme le disent les anciens, toute chose donne naissance à son fils, mais l'innovation donne naissance à son père. Toujours plus grand. Ils ont introduit 6 fêtes. En plus donc de la naissance ou la soi-disant naissance du prophète sallam, ils ont également mis une fête pour la naissance de Ali, radiallahu anhu. Une autre pour la naissance de Fatima, radiallahu ta'ala anha. Une pour les bien-aimés petit-fils du prophète sallam, Al-Hassan et Hussein, qu'Allah les agrée, et une pour le calife de l'époque. Donc chaque fois, six. Pourquoi s'arrêter? Ceux qui les ont suivis ont également introduit la naissance de leurs références. Et ce n'est pas les références qui manquent. Pour arriver à eux-mêmes, bien sûr, tant qu'à faire. Et ceci, bien entendu, ne fait pas l'objet de l'islam, qu'on ne fait pas partie de l'islam. Le prophète sallam, Anas ibn Malik, Allah l'agré, a dit, le prophète sallam est arrivé à Madina, et il a trouvé les ansars, les habitants de Yathrib. Les ansars, il les a trouvés en train de... Ils avaient deux fêtes. Et il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, Allah vous a substitué à ces deux fêtes, deux autres fêtes meilleures, la fête du Fêtre, la rupture du jeûne du mois de Ramadan, et la fête d'Al-Udhiya, la fête du sacrifice. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci a été compris et suivi par les générations, sept siècles. Et ensuite, les choses se sont dégradées, les choses se sont déformées avec l'apparition de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déjà prédit de plus de 72 sectes à côté de la voie qu'il a tracée, celle et ses compagnons, qu'Allah les agrée tous. Et là, on a beaucoup d'excuses. Les anciens, ils ont dit, à partir de quand? À partir du 10e siècle, peut-être, du 12e siècle. Nos pères ont fait un reproche, oh combien juste, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait souvent aux humains. Et si vos pères étaient dans l'erreur, il n'y a pas de mal, disent-ils. Il n'y a pas de mal. L'imam Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, quelqu'un est venu le voir en disant, je vais porter l'ihram, l'habit pour faire le pèlerinage, petit ou grand, Umra ou Hajj. Mais je vais le faire à Madina. Il a dit, ne le fais pas. Il dit, où est le mal? Il a dit, le prophète le faisait à Bir Ali ou Dhul Khalifa, quelques kilomètres de Médine. Il a dit, mais où est le mal? Il a dit, le mal est justement là. Le fait de penser faire mieux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr al-Siddiq, Allah l'agré, quand Omar ibn Khattab, pourtant qui n'était pas un innovateur, est venu lui proposer de transcrire le Coran, il a dit, mais quelle terre va me porter? On lui fait dire, quel ciel va me couvrir si tu me demandes de faire ce que le prophète n'a pas fait? Et pourtant, il a dit, alaykum bisunnati, suivez ma voix et la voix des khulafa qui sont bien guidés et sans aucun contexte, on sait qui ils sont. Ce sont les quatre premiers qu'Allah les agrée. Et s'il y avait eu un inspiré après lui, il a dit, ça aurait été Omar, radiallahu ta'ala, qui est venu suggérer ça et qu'Allah bénisse Omar et le récompense au nom de la communauté pour tout ce qu'il a, ce par quoi Allah a voulu les lire et il est au paradis. Enfin, encore dit l'imam Malik, quelqu'un qui dit, je fais une chose qui n'a pas été faite par le prophète sallam, on lui fait dire qu'il a menti sur Allah, qui a parfait sa religion, comme vous le savez, verset 3 de la sourate 5. Allah a parfait le jour de Arafat, le verset qui est descendu, que vous connaissez. Il a parfait sa religion. Dans la religion, tu ne peux pas espérer faire mieux. Si tu espères faire mieux, tu es sorti de la religion. Parce que tu penses que le prophète sallam, hachalillah, aurait oublié quelque chose, ou aurait caché quelque chose. Tu ne peux pas. Ou alors, la religion n'est pas complète. Et tu vas en contradiction avec ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Mes frères et sœurs, pourquoi nous sommes dans l'imitation aveugle de choses qui n'ont pas de sens? Allah t'aurait laissé aux Fatimides, ou à ton grand-père, ou au Cheikh, parce qu'il aime. Les autres ne l'aimaient pas. Wallah, ils l'aimaient. Ils ont sacrifié biens et immeubles, leur propre vie. Toi, pour qui je sacrifiais mon père et ma mère, disait souvent Abu Bakr Allah, et il était sincère. C'est Allah qui l'a voulu qu'il soit sincère. Un homme qu'on a pris, qu'on a trahi et qu'on a voulu tuer, on a menti au prophète sallam en lui disant que des gens sont convertis. Envoie-moi des gens. Envoie-nous plutôt des gens pour qu'ils nous apprennent l'islam. Il a envoyé les meilleurs d'entre eux, c'est-à-dire ceux qui portaient le Coran. Et ils en ont, ils les ont trahis et ils les ont tués. Avant de les tuer, il y a un qui a demandé à faire deux rakats. Et on lui a dit, il a dit, si je ne craignais que vous pensiez que j'ai peur de la mort, j'aurais prolongé encore. On dit, vois-tu, est-ce que tu ne préférerais pas que le prophète soit à ta place? Il dit, Wallahi, mon souci, c'est que même pas une épine ne touche au prophète. Ça, ce sont les hommes. Et ils étaient sincères. Et Allah les a agréés. Toi, tu aimes le prophète et tu fêtes. J'ai reçu, pas plus tard que ce matin, SMS avec des gâteaux. Bonne fête de Mauloud. Hawla wa la quwwata. Est-ce qu'il fait même la prière? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Bonne fête. Fête de quoi? C'est pas grave. Si, c'est grave. C'est extrêmement grave. Pour celui qui ne sait pas, on prie Allah subhanahu wa ta'ala de le guider et de nous guider dans le droit chemin. Tu ne peux pas attendre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter ce qui est une innovation dans la religion. Le cheikh de l'islam, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit on peut au mieux attendre que Allah te pardonne, mais pas d'accepter de toi. Parce qu'Allah n'accepte pas une œuvre qui ne suit pas ce qu'il aime, c'est-à-dire la voie qu'il a tracée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite les gens qui les ont suivis. Que celui qui veut suivre la vérité profite du rappel, qu'Allah nous en fasse profiter. Que celui qui suivre ses passions et ce que les gens disent, et les savants, ils ont dit, et ils ont divergé dessus. Il n'y a pas de divergence sur ce sur quoi les savants sont unanimes, sur ce sur quoi les anciens sont unanimes, sur ce sur quoi les compagnons du prophète sont unanimes. Il n'y a pas de divergence dessus, sinon tu trouveras des divergences à tout niveau. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, mes frères, mes sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne saurait jamais le remercier, notamment pour nous avoir guidés, pour nous avoir envoyé le meilleur des hommes, pour avoir préservé son message. Le dogme de l'islam, ce qui a fait la solidité de l'islam, sagesse et miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le fait qu'il est tawqifi. Il ne change pas. La vérité ne saurait changer. Il ne change pas. On peut diverger sur des questions secondaires. Mais la question fondamentale, celle qui va t'amener au paradis, incha'Allah, il n'y a pas de divergence dessus. Tu diverges dessus, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, 72 dans l'enfer, wa na'oudhu billah. Ma communauté, après avoir cité le nombre de ceux qui sont passés avant nous, 71, 72, sa communauté va se diviser en 73 parties. 72 en enfer. Il dit sa communauté, ceux qui se prétendent musulmans, sa communauté, 72 en enfer, wa na'oudhu billah. Pourquoi? Pour avoir divergé avec ce qu'il a apporté, sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alayhi salatu wasalam, c'est comme s'il les voyait, il ne parlait pas de lui-même. Ceux qui vivront après moi verront beaucoup de divergences. Je vous impose, je vous conseille, je vous recommande ma sunna, ma façon d'être, ma voix, et celle des khulafa, les califs bien guidés. Tenez-vous, accrochez-vous à cela, mordez-les en pleines dents, jusqu'à la fin du hadith. Et il a mis en garde contre toute innovation dans la religion. Parce que toute innovation est égarement, et tout égarement dans une version conduit à l'enfer, qu'Allah nous en préserve. L'intention, Allah seul sait, elle est dans le cœur, et tu n'as pas à juger l'intention de qui que ce soit. Il n'y a plus de révélation sur qui que ce soit après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je parle de la révélation divine, bien sûr. Alors, on ne juge pas les gens, pourquoi ils font ceci, ils en font cela, ils sont hypocrites, ils sont cela. Quand vous pouvez entendre, Abba Sokambo, machin, ils n'aiment pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es dans mon cœur pour le savoir. C'est parce que je l'aime justement, que je ne souhaite pas qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'éloigne de lui le jour où il sera à côté de son bassin, sallallahu alayhi wa sallam, et j'y crois. Et des gens vont vouloir boire de ce bassin pour ne plus avoir soif. Abada, jamais. Et il va dire mes compagnons ou les gens de ma communauté, et les gens diront non, non. Tu ne sais pas ce qu'ils ont fait après toi. Et il dira, alayhi salatu salam, éloignez-moi de ces gens qui ont innové après moi. Tu ne peux pas juger ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne juge pas non plus ce qu'il y a dans ton cœur. Par contre, je peux te dire que les savants sont unanimes, à moins que le tien fasse exception, sur le fait qu'Allah n'accepte pas ce qui ne suit pas la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu dois l'avoir. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant. Il ne va pas goûter à la saveur de la foi. Et Allah sait que la foi, c'est la meilleure des choses qu'il donne. Qu'Allah nous fasse goûter la saveur. On ne désespère pas, même si on en est loin, en tout cas beaucoup d'entre nous. Personne ne goûtera réellement la saveur de la foi tant que Allah et son messager, sallallahu alayhi wa sallam, ne seront pas les plus aimés de lui. Qu'il aime et qu'il déteste pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et qu'il craigne de revenir, hein, après que Allah l'ait guidé, de revenir dans le kufr, dans la mécréance, comme il craint de tomber dans le feu. Aucun d'entre vous ne sera croyant jusqu'à ce que je sois aimé de lui, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Plus que son père, sa mère, ses enfants, plus que lui. L'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un point du dogme de l'islam. Celui qui n'aime pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas croyant. Et parmi les musulmans, il y a des hypocrites, il y a les croyants. Il n'est pas croyant. Il n'est pas croyant. Chaque jour qui passe, que dis-je, depuis que Allah l'a envoyé, tout le bien qui, de près ou de loin, provient des gens que Allah a guidés, remonte jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'étais pas là, tes parents non plus. C'est au travers du message du professeur Sallam que Allah nous a guidés. Que ce soit tes ablutions, que ce soit tes relations, dans tes relations conjugales, ce que tu pourrais réciter, ce que tu pourrais demander à Allah, comment adorer Allah, c'est au travers de ce qu'il a laissé, sallallahu alayhi wa sallam. Vivre, aimer le professeur Sallam, c'est suivre ses pas. Aimer le professeur Sallam, Allah l'a aimé. Toi, tu ne le proclames qu'une fois l'an et tu te trompes souvent. Comme un SMS. C'est aujourd'hui ou c'est hier? Ben, je dis désolé. Je ne sais pas quand c'est. Je sais que c'est un lundi de l'année de l'éléphant. Et on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah a voulu qu'il n'y ait pas de prière pour ceux qui prient, bien sûr, sans que l'on prie sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam doit se traduire par la jalousie vis-à-vis de l'islam. Qu'on soit tous des ambassadeurs. Quand on se pose la question avec ta femme, avec tes voisins, avec des musulmans, avec les non-musulmans, qu'est-ce que le prophète aurait fait dans pareil cas? Si tu ne te poses pas cette question, que tu suis tes passions, ou ce que les gens disent, chez nous c'est comme ça, et moi je dirais, chez vous c'est comme ça, et bien chez moi, ce n'est pas la référence. Qu'est-ce que le prophète aurait fait? Wallahi, le meilleur des hommes n'a jamais levé la main sur une femme, ni sur un esclave. C'est le plus doux des hommes. N'importe qui à Madina lui prenait par la main, lui prenait la main. Et quand il saluait, il ne retirait pas la main. Il te laissait le faire, sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu peux ne pas aimer cet homme? Et suivre sa sunna, c'est ce qu'il nous a demandé. Et rien d'autre. Qu'Allah prie sur ce noble messager, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis dans le droit chemin. Et nous comptons parmi cela.